voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Alain Prochian. Ce soir, il n'y a pas de pensée sans risque.
Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir.
On se retrouve chez vous. On a parlé hier de votre période de formation, de votre passage aux États-Unis, de votre arrivée dans le laboratoire de Jacques Glovinsky. Et vous avez conclu notre entretien en disant « quand on a vu, on a vu ». Et vous vous considérez comme un accidenté de la science, comme on peut être accidenté de la route. Alors, quelle a été l'observation qui a été cet accident ?
J'ai bien récupéré. Hein.
Vous avez l'air plutôt en forme.
Il n'y a pas de, de traces de l'accident. Enfin, il y en a peut-être, mais sont pas visibles. C'est pas uniquement un accident. C'est souvent, je pense, vous savez, vous êtes dans le métro, vous allez déjeuner chez votre belle-mère. Il y aura le rosbif, haricots verts qui attend, et tout d'un coup, vous voyez une très jolie femme qui passe sur le quai, et vous sortez et vous la suivez, et hop, voilà. Donc votre vie change, d'accord? Mais il y a un risque quand même, parce que c'était assez confortable de, tous les dimanches, déjeuner chez sa belle-mère avec les enfants, etc. Donc c'est un peu ça qui est arrivé, c'est ce genre d'accident. C'est-à-dire que on avait fait des travaux très raisonnables hein, dans l'équipe que je dirigeais, hein, en fait. Plusieurs articles, je sais pas, 5 ou 6 papiers, publiés dans Nature. À l'époque, c'était très chic, ça l'est toujours, d'ailleurs. Et puis, on a fait cette observation que une protéine qui est un facteur de transcription, c'est une protéine qui doit être dans les noyaux, qui est justement le produit de ces gènes de développement qui changent les formes. Donc, on s'est amusé à voir si on pouvait les introduire, les modifier. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu qu'un facteur de transcription qui n'a rien à faire, qui n'a pas les signaux pour sortir d'une cellule, qui n'a pas les signaux pour rentrer dans une cellule, qui doit être confiné dans le noyau pour réguler l'expression génétique, était capable de passer entre les cellules.
Alain Prochian, pour nos auditeurs qui ne sont pas du tout familiers de toutes ces questions morphogénétiques, voilà, biologiques, est-ce qu'on pourrait faire un petit rappel de l'importance de cette découverte et voilà, de ce que concrètement ça signifie?
Alors, ces gènes de développement, vous prenez... Par la pensée, prenez votre main et dissociez-la en cellules de peau, de muscles, de nerfs, de poils, de ce que vous voulez. D'accord ? Toutes les cellules sont dispersées. Maintenant, vous prenez votre pied et vous faites la même chose. Ce sont les mêmes cellules. Mais ici, elles font une main et là, elles font un pied. Parce que la position dans laquelle sont ces cellules font qu'elles vont s'organiser d'une certaine façon, en main ou en pied, en fonction de la position où elles sont. Et ça, si vous voulez, c'est le rôle de ces gènes de développement. Donc, ces protéines, maintenant on sait qu'elles servent à bien d'autres choses, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était aussi exprimé chez l'adulte. Mais ces protéines, au cours du développement, elles apportent une information de position, et en fonction de cette information de position, les mêmes cellules vont faire ici une main, là un pied, ici une antenne, là une patte. Voilà. Et s'il y a une mutation, ça se passe mal. On met l'antenne à la place de la patte. Donc, ce sont des gènes qui codent pour des protéines, des facteurs de transcription, donc qui sont normalement nucléaires, qui mettent en place des programmes morphogénétiques. Ce par quoi, d'un œuf de poule sort une poule, et d'un œuf d'humain sort un humain. Et donc, l'idée que ces protéines pouvaient passer d'une cellule à l'autre, comme ça, ça voulait dire que je pouvais transporter de l'information position d'une cellule dans une autre. C'est-à-dire que si j'ai deux cellules qui sont côte à côte, et qu'une vient de Strasbourg et que l'autre vient de Nantes, quand elles se rencontrent, elles savent que l'une vient de Strasbourg et que l'autre vient de Nantes. Et si Strasbourg aime Nantes, elles vont s'embrasser. Et si Strasbourg n'aime pas Nantes, elles vont se séparer. Donc, la réponse physiologique de l'interaction cellulaire va être non pas dépendante de ce qu'il y a dans la cellule, bien sûr, mais aussi de ce qu'elle est capable d'échanger entre cellules sous forme d'échange de facteurs de transcription porteurs d'informations de position. C'était ça l'idée au départ, vous voyez. Donc, ça a un rôle à jouer dans le guidage axonal, dans la migration des cellules, dans la construction des organes. Et c'est aussi un rôle à jouer chez l'adulte, on y viendra peut-être à un moment si on a le temps, mais ce qu'on pensait à l'époque, et ce qu'on pense toujours, beaucoup de mes collègues pensent toujours la même chose, c'est que ce facteur de transcription, il code pour des protéines, qu'on appelle les morphogènes, qui sont sécrétées, qui se fixent sur des récepteurs et qui passent le signal comme ça. Et c'est vrai. Mais en même temps, le signal peut passer directement de noyau à noyau. Voilà. Et ça, si vous voulez, ça cassait un nombre de dogmes assez importants, 2 ou 3, mais bon, c'était pas mal déjà.
Quel dogme, par exemple?
Par exemple, qu'une protéine ne peut pas traverser une membrane. par exemple, qu'un facteur de transcription de cette famille, c'est un facteur qui ne joue que dans les décisions de lignage, dans la construction des organes, par exemple, je vous parlais hier soir de l'antenne et de la patte. Mais que ces facteurs de transcription puissent faire de la signalisation entre les cellules et apporter une information de type positionnel d'une cellule à l'autre en se foutant des membranes comme s'il n'y en avait pas, et sur des cellules qui étaient des cellules déjà différenciées, si vous voulez. Donc ça ne devrait être publié sous aucun prétexte, c'est le genre de commentaires que je recevais quand j'envoyais à des revues. Et effectivement, c'était une période à la fois... J'ai eu beaucoup de chance, si vous voulez. C'était une observation, vous savez, je suis le type qui a passé 40 ans de sa vie à regarder une protéine passer d'une cellule à l'autre, donc c'est un peu dérisoire, je viens l'entendre. Mais en même temps, ça a été ma vie, quoi. J'ai sacrifié beaucoup, mais pas uniquement moi. J'ai eu la chance, si vous voulez, et c'est là que la conversation entre amis prend une autre dimension. J'ai eu la chance, à l'école normale supérieure, donc j'avais déménagé pour monter une équipe à l'école normale supérieure, même à laboratoire, je dirigeais le laboratoire, d'avoir autour de moi d'abord un collègue qui s'appelle Michel Wolowicz, qui est professeur à l'École normale supérieure aujourd'hui, et que j'avais rencontré chez Chapville. Parce que moi, j'avais pris les virus à ARN, chez les plantes, et lui, il avait pris les virus à ADN. Donc moi, c'était le navet, lui, c'était le chou-fleur. Voilà. Donc, et puis un jour, il m'a dit quand même... Et après, il était faire du cancer à l'Institut Curie, des oncogènes. Et puis un jour, il est venu me voir, mais tu sais, je me fais vraiment chier. Je lui ai dit, écoute, viens le faire avec moi. Et donc, il m'a rejoint et on s'est jamais quitté. C'est une vraie amitié. Et donc, avec Michel, qui est lui alors un vrai biologiste moléculaire, parce que moi, entre-temps, à force de faire des neurosciences, des trucs, ça allait très vite les techniques de biologie moléculaire, que j'avais oubliées. J'étais plus un biologiste moléculaire, j'étais même plus grand-chose, à vrai dire. Parce que j'étais pas neurobiologiste encore, j'étais plus biologiste moléculaire, et j'avais juste fait une observation qui était un tout petit peu bouleversante. Et Michel, qui aime la science, il s'est mis avec moi. Donc on a fait un couple, et ça a été vraiment formidable, parce que d'abord il est très rigoureux, il me disait non, tu peux pas faire ça comme ça, enfin, il y a toujours le reproche vivant là, mais c'est vraiment utile. Et puis j'avais des étudiants, dont un que j'aime beaucoup et que j'aime toujours, qui s'appelle Alain Joliot, qui était l'arrière-petit-fils de Marie Curie quand même, donc il y avait de bons gènes. Je parle même pas de Frédéric Joliot, de Pierre Joliot, etc., donc... qui faisait thèse avec moi et qui mourait de trouille, parce que sa mère était venue voir « Si vous faites du mal à mon bicounet », la mère, c'est la femme de Pierre Joliot aussi, et elle-même était une scientifique de haut niveau. Donc, mais Alain a été extraordinaire, et au fond, c'est avec lui qu'on a développé toutes ces choses, dont je vous parlerai peut-être plus tard. Et il a fait sa thèse là-dessus, et il fallait vraiment du courage. Et donc, et puis j'ai eu d'autres étudiants, je ne vais pas les citer tous, mais c'était une période merveilleuse parce que on était un peu parano, vous voyez. C'était un laboratoire paranoïaque parce que personne ne nous aimait. Mais il y avait une solidarité à l'intérieur de lutte contre le monde extérieur qui faisait qu'on faisait des projets un peu bateaux pour avoir des financements, mais qu'on avait ce petit truc-là qui était pas l'essentiel de ce que je faisais dans le labo, c'était peut-être 10 ou 20%, mais qui est la seule chose qui nous intéressait véritablement, 3 ou 4 dans le laboratoire, dont Alain, puis les étudiants qui sont arrivés après, bien entendu. C'est cette amitié, c'est cette solidarité, c'est cette... chaque fois qu'on recevait des revues du genre « c'est de la propagande, ça n'existe pas, c'est pas possible ». J'étais assez âgé déjà, vous savez, je suis né en 48, donc j'avais déjà 41, 42 ans. Donc j'avais déjà une carrière derrière moi malgré tout, j'étais directeur de recherche générale, j'avais publié pas mal de trucs, j'avais découvert des petites choses que certains pensaient importantes et donc on pouvait publier dans Nature. Mais la vraie chose importante que j'avais découverte, celle-là était interdite de publication. Il m'a fallu 15 ans pour avoir accès de nouveau aux grands journaux. Cette situation était très excitante en fait. Ça crée une solidarité de groupe qui était très forte, et des amitiés qui se défront qu'avec la mort.
J'aimerais comprendre, quand on fait une telle observation, le sentiment qu'on a. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est pas vrai, passons à autre chose? Ou est-ce qu'au contraire, qu'est-ce qui fait qu'on s'y accroche?
C'est très curieux. Bon, je voudrais choquer personne. Peut-être qu'il faut mieux que je ne dise rien. Mais voilà. On n'avait pas découvert entièrement que la protéine, j'ai juste vu qu'une partie de cette protéine, qu'on appelle l'homéodomaine, qui est la plus conservée, qui permet la fixation de l'ADN, traversait les membranes. Et ça, j'ai vu ça avec Alain, qui faisait sa thèse là-dessus. Alain Joliot. Hein. Et c'est absolument incroyable, mais je me rappelle très bien, on était dans la pièce, j'étais plus au troisième sous-sol, j'étais au deuxième étage, que j'avais une promotion. J'avais pas encore bougé à l'école normale, j'allais bouger à l'école normale. C'est avant que je retourne aux États-Unis pour un an chez Mike Chelansky à New York University School of Medicine.
Vous êtes échappé un an aux États-Unis, alors pourquoi s'échapper ?
Pour réfléchir. Mais je vous expliquerai plus tard. Et pour réfléchir justement à ça, à lire sur les gènes de développement. Parce que j'étais devant un truc qui était trop gros pour moi. Voilà, en gros, quoi. Et donc, dans ce deuxième étage, maintenant, ou même troisième étage, d'un bâtiment B du Collège de France, je me rappelle très bien. Et tout d'un coup, j'ai eu le sentiment de voir tout ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'ai déroulé immédiatement toute l'histoire. Pas dans ses détails, pas sur les modèles que j'ai pu développer après en collaboration avec les uns ou les autres, mais le fond de la chose, je pense que je l'ai vu comme un flash, comme ça. Et en même temps, une grande sécrétion, je dirais, d'endorphine. C'est-à-dire qu'une espèce de plaisir, c'est très très étrange, et c'est une sorte d'orgasme qui s'est prolongé sur des années, vous voyez, parce que en science, on n'a pas beaucoup d'expériences comme ça, et quand on en a une, il faut qu'elle dure, voilà. Donc, mais elle a duré, mais alors ça a été pénible par moments. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment où on a l'impression, à tort ou à raison, hein, on a l'impression de comprendre quelque chose. Et cette impression de comprendre quelque chose, de nouveau j'ai dit à tort ou à raison, parce que ça aurait pu être complètement faux, c'est une espèce de plaisir physique, voilà. Vraiment, c'est un plaisir physique.
C'est-à-dire que d'emblée, vous avez perçu tous les enjeux qui entouraient cette
observation? Non, peut-être pas tout, parce que après, grâce à des interactions avec d'autres laboratoires, on a affiné, mais le mécanisme fondamental, et même certains détails de quels pouvaient être les récepteurs de ce truc qui... Je sais pas comment ça se passe. Et là, c'est... Par exemple, j'ai breveté immédiatement, 91, parce qu'en fait, la découverte, on l'a faite entre 86 et 89. Parce que bon, c'est une observation, puis une observation se transforme petit à petit en découverte. Hein. Ça, au départ, c'est toujours une observation. Mais en 91, quand on a vu cette protéine traverser les membranes, j'ai tout de suite dit, c'est cette région de la protéine qui fait traverser. Et je l'ai breveté comme vecteur peptidique, pour l'utiliser pour rentrer des médicaments, trucs dans les cellules, ça a très bien marché. Mais pourquoi? Alors, quand je réfléchis après... Et après, on a travaillé beaucoup avec des chimistes. Gérard Chassin, qui est un type formidable, c'était avec qui on se fait beaucoup d'ennemis dans ce métier, quand même. On se fait quelques ennemis aussi, mais on se fait quand même beaucoup d'amis. Et on a décidé que c'était cette structure, et je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi. C'était une espèce d'intuition. Et c'était vrai, hein, parce qu'après, on a synthétisé le peptide avec Gérard. C'est une structure de 16 acides aminés, c'est tout petit. Hein. Avec Gérard, donc Chassin, hein, on a synthétisé ce truc. Et puis, ça rentrait dans les cellules, ça traversait les membranes à 4 degrés, d'abord, on rentrait dedans. Donc, on a pu faire tous les variants, parce que oui, ça s'asséminait, on peut faire toute la synthèse chimique qu'on veut. Donc, on a vu qu'elle était asséminée, qui était importante, la structure qui était importante pour rentrer. Et c'était un moment. J'avais le mec qui a fait ça dans mon labo, c'était un doctorant italien qui s'appelait Daniele De Rossi, qui depuis a quitté la science pour écrire des romans. Vous voyez, moi, j'avais quitté les romans pour faire de la science. Donc, chacun voilà, une balle partout, mais qui est un type totalement génial. Ça, c'est ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est-à-dire que vous rencontrez des mômes quand même, hein. À 42 ans, on croit qu'on est vieux, hein. Je sais pas vous, je vais le dire, mais en fait, vous n'avez rien vu. Donc, on rencontre des mômes comme ça, qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans, et avec qui on a des discussions. C'est formidable, et c'est encore le cas aujourd'hui. Hein.
Et pourquoi la réaction a été parfois hostile?
Parce que c'était, d'abord, c'était trop simple. D'accord? C'est une chose. D'abord, c'était très simple. Je pense que ça aurait plu à des physiciens ou à des mathématiciens. Mais les biologistes, est-ce que ce soit compliqué? Voilà, ça, c'est un truc, probablement, ce que ça fait plus savant. Mais d'abord, c'était trop simple. Et par ailleurs, c'était tout à fait, je vous dis, il y a traverser une membrane aux protéines, c'était impossible. Tout le monde pensait que les protéines, c'était les membranes, c'est des murs de Berlin. Vous avez vu ce qui est arrivé au mur de Berlin. Pour les membranes, c'est pareil. Et puis, les gens ne pensaient pas que c'était des molécules qui pouvaient faire du signal. Le dogme, c'était que la molécule transcrit des protéines qui vont être sécrétées, qui vont faire le signal, qu'il faut un intermédiaire en plus. Mais il faut forcément un intermédiaire en plus. Mais il faut aussi cette chose-là. Et donc, c'était au moins deux dogmes qui étaient... c'était solide, hein, c'était vraiment solide. Mais ça l'est toujours, hein. Il y a toujours des gens qui... Ah, c'est fichu cette histoire, vous voyez comme on dit en anglais, ça sent le poisson.
Alain Prochain, vous avez dit aussi que cette période a été marquée par des sacrifices pour ces travaux-là. Alors, de quelle nature sont ces sacrifices et, voilà, qu'est-ce que...
Sacrifice, non, c'est-à-dire que j'ai accordé beaucoup plus d'importance à ma vie professionnelle qu'à ma vie sentimentale. Est-ce que c'est un sacrifice? Je ne sais pas. C'est un choix, voilà, donc on ne peut pas tout faire. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une vie sentimentale riche, mais d'un certain type. Je n'avais pas envie de consacrer trop de temps à des choses qui prennent trop de temps, vous voyez ce que je veux dire, voilà.
Walter Gering, qui est chercheur à Bâle, vous lui avez envoyé vos travaux, votre découverte, et il vous a répondu « Young man, if it's true, you'll be famous ». Ah oui, mais il ne vous a pas publié.
Vous êtes bien renseigné. Oui, c'est vrai. Donc Walter, c'était le type qui avait cloné le premier CGN et qui avait montré l'homme. C'était le pape, quoi. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas eu le prix Nobel. Je pense que c'est très injuste. Honnêtement, c'est un type formidable. Et donc j'avais envoyé, il était rédacteur en chef d'un journal où j'avais envoyé ça. Il m'a répondu ce que vous venez de dire.
Jeune homme, si c'est vrai, vous serez célèbre.
Voilà. Et puis il a refusé le papier. Mais il n'a pas seulement refusé le papier, c'était vraiment un type intelligent. Il m'a dit, venez me voir et je vais vous dire ce qu'il faut faire pour démontrer vraiment que ce que vous faites n'est pas artefactuel. Alors que là, c'était vraiment un vrai savant, parce que donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé à Bâle, où il avait son laboratoire, au Barry Syndrome, et il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses telle et telle mutation dans la protéine, que tu montres que tu fais cette mutation, ça n'entre plus dans les cellules, que ceci, cela. Donc je suis revenu avec ma feuille de route, et on a fait les manips qu'il nous a demandé de faire. Et ça, c'était vraiment positif, si vous voulez, c'est pas « je n'y crois pas ». C'est « pour que j'y croie, il faut que vous me le prouviez » avec ces expériences-là. Ça, c'est l'attitude scientifique, vraiment. Et donc, on l'a fait, bien entendu. Heureusement, j'avais Volovitch avec moi, qui était un biologiste moléculaire. C'était comme Lucky Luke, il clonait les trucs plus vite que son ombre. Donc, c'était facile avec lui. Et puis, Alain aussi était un très bon biologiste moléculaire. Donc, il y en a d'autres que j'oublie peut-être un petit peu, mais ces deux-là étaient tellement importants pour moi. Eh bien, on l'a fait. Et après, j'ai renvoyé à Walter... qui du coup a effectivement fait publier le papier au PNAS. Donc c'est lui qui l'a fait. Et on est resté très proche. Malheureusement, il est mort d'un accident de voiture il y a 3-4 ans. Mais c'était un type, puis c'était un bon vivant, c'est un grand zoologiste, c'était un grand savant, un immense savant. Et en même temps, c'est un type qui aimait la vie, il aimait boire, j'aimais beaucoup Walter.
À l'an prochain de... Ce moment où vous faites cette observation, vous proposez cette observation comme une découverte, où vous recevez voilà, des coups, on va dire ça comme ça.
Hein.
Vous en rendez aussi. Est-ce qu'il y a des périodes où vous vous essoufflez, où vous vous découragez, où vous vous dites pourquoi je m'enferre, pourquoi je continue, pourquoi
non, je m'obstine ? Le découragement, il n'est pas là. Le découragement, c'est le doute. Parce que vous ne pouvez pas avoir des gens qui vous disent « c'est pas possible, c'est pas vrai », etc., vous ne pouvez pas avoir la responsabilité de gens que vous faites travailler sur ce thème et ne pas être saisi par le doute. Sinon, vous êtes un crétin. Peut-être le cas, hein, quand même, mais c'est notre affaire. Mais non, la grande difficulté, c'est le doute qu'on a soi-même. Pas forcément de ce qu'on a observé, mais de l'importance physiologique que ça. Et à ce moment-là, pourquoi perdre son temps à regarder une protéine passer d'une membrane à l'autre pendant 40 ans, quoi. Et de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis de l'argent qu'on dépense, vis-à-vis des étudiants qu'on a sous sa responsabilité, des post-docs. Et là, il y a des moments où on se dit non, ça va pas, faut arrêter. Et la grande difficulté, c'est de surmonter le doute et de ne pas le laisser voir. Parce que si dans un laboratoire où il y a un sujet comme ça qui est très dangereux, il y en a d'autres sujets à côté dans mon laboratoire, il y en avait d'autres. Non, il fallait bien que je publie quand même. J'ai toujours publié bien et à un bon niveau. Mais pas sur des thèmes qui m'intéressaient forcément autant que celui-là. Mais si vous laissez paraître le doute, alors c'est la débandade. Vous n'avez pas le droit. C'est beaucoup de nuits blanches, oui. C'est beaucoup de nuits blanches, c'est beaucoup d'angoisse, en fait. Mais bon, en même temps, c'est beaucoup de plaisir, parce que si c'était facile, ce ne serait pas drôle. Il y a des tempéraments comme ça, j'imagine, à risque, il y a des tempéraments à risque. C'est la part du risque, hein. Voilà, c'est tout, quoi.
Ça, c'est quelque chose qui est très important dans votre pratique de la science, c'est cette notion de risque. Vous citez souvent Michel Léris, qui dans l'introduction, la préface de L'âge d'homme, dit qu'une bonne œuvre littéraire doit introduire ne serait-ce que l'ombre d'une corne dans l'écriture. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour vous, est moteur, le
risque. Oui, l'ombre de la corne du taureau. L'ombre de la corne du taureau, les risques, oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de pensée sans risque. Mais le risque est... On est dans un milieu, dans une époque en particulier, où la science cesse d'être un jeu. À cause des enjeux économiques, des enjeux de compétition entre chercheurs, et tout d'un coup, ça cesse d'être un jeu, et donc la part du risque diminue, parce qu'on n'a pas le droit de prendre trop de risques pour ses étudiants, pour ses post-docs, pour sa carrière, donc c'est plus facile de suivre le sillon, si vous voulez, ou alors de le creuser de plus en plus profond, parce qu'on a les meilleurs microscopes, des meilleurs... Mais prendre le risque de... se jeter à travers champs, hein, comme disait Claude Bernard, justement, c'est de plus en plus difficile. Mais je crois quand même que c'est ce qu'il y a d'intéressant. Et il y a une part du risque parce que c'est là où agit l'imagination. À la pointe de la pointe, il faut lâcher la rampe. Voilà. Il faut être prêt aussi à se casser la figure parce que c'est toujours, ça rate toujours. C'est Beckettien, quoi. Fail, ever fail. Mais fail better, hein. Voilà, ça rate toujours, mais il faut que ça rate mieux la fois d'après. C'est ça la recherche, pour moi. Parce que je pense que chaque tempérament doit travailler en accord avec ce qu'il est. C'est-à-dire que moi, je respecte tout le monde dans la recherche, à partir du moment où tout le monde est honnête. Voilà. À partir du moment où les gens sont honnêtes, il y en a qui préfèrent suivre un truc classique, il y en a qui préfèrent décrire. La description, c'est très important de faire des très belles descriptions. Il y en a qui préfèrent faire des modèles, il y en a qui préfèrent imaginer des trucs et vérifier derrière. Je crois que toutes les façons de faire de la recherche sont valables. Je crois qu'il faut les respecter toutes. Alors évidemment, il y a des gens qui ont plus de goût du risque, et il y a des gens qui préfèrent monter le Mont Blanc en téléphérique et jouer des coudes pour savoir qui sera le premier sorti de la benne, et il y en a qui préfèrent le monter en avarap, là, à la main, quoi. Voyez ce que je veux dire, c'est pas la même chose, voilà.
Est-ce que cette découverte aujourd'hui, vous pourriez la faire? Dans les conditions actuelles dans lesquelles se font la recherche?
Je pense que oui, je crois que... Vous savez, on dit toujours c'était mieux avant. Moi, je crois pas du tout à vous, c'était mieux avant. Je crois que c'est une question de tempérament. Claude Bernard disait déjà, la science ne manque pas de talent, elle manque de caractère. Voilà, je crois que c'est vraiment une question de personne. Et comme toutes les recherches sont utiles, je crois que c'est vraiment pas un problème. Et de temps en temps, il y a un tempérament comme ça qui est un peu cinglé, quoi, faut le dire, ou simplement qui s'ennuie à faire les autres choses, ou qui peut-être est un peu paresseux, hein, un paresseux qui se force. Non, c'est vraiment une question... Je crois pas que ce soit pas possible. On trouve toujours... Je vous dis, moi, dans le laboratoire que je dirigeais à l'École normale, ce projet-là, c'était 10% du travail du laboratoire. Le reste, c'était l'Alzheimer, c'était les protéines de la matrice extracellulaire, c'était... tout ce qu'on peut imaginer, donc des choses qui étaient parfaitement publiables dans des très bonnes revues. De toute façon, je n'aurais jamais survécu. Et puis, je gardais 10 ou 20% du financement pour faire ce truc à côté, qui était la seule chose qui m'amusait. Hein. Et donc, c'était parfaitement possible. Oui, je pense que ça l'est toujours, oui, bien sûr. Oui. J'espère.
Comment est-ce qu'Alain Prochain, elle a évolué, cette découverte, et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les applications envisagées, par exemple, pour...
Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas très nombreux toujours à travailler là-dessus. Je dis, il y a encore des gens qui doutent, hein, parce qu'il y a une telle publicité négative qu'enclencher la marche arrière est un peu compliqué pour certains. Mais j'ai beaucoup collaboré avec des laboratoires étrangers. Et donc, on a développé dans différentes directions. Et puis, des laboratoires en France. Récemment, on a fait un travail en collaboration avec Alexandra Pierani, qui est à l'Institut Necker, qui est sur le développement du cortex. Et donc les applications, elles sont un petit peu... Alors là, il y a les côtés fondamentaux, hein. Et puis, il y a évidemment, vous savez, il n'y a pas une physiologie pour la santé, une physiologie pour la maladie. C'est la même physiologie. La maladie, c'est une physiologie qui déraille. Donc quand vous avez la chance de mettre la main sur un truc qui est un peu nouveau, vous avez une nouvelle voie de signalisation sur le plan physiologique. Alors évidemment, vous pensez tout de suite à qu'est-ce qui se passe quand ça déraille. Et alors là, vous pouvez trouver de nouvelles idées dans la recherche de l'étiologie de certaines pathologies. Et c'est comme ça que je me suis trouvé tout d'un coup en bringué, je dois bien le dire, à travailler sur des pathologies, en particulier la pathologie de la maladie de Parkinson, et puis sur la maladie de Charcot, et puis maintenant sur les maladies psychiatriques, et c'est ce qui m'excite le plus. Et peut-être que de façon rétrospective, pour répondre à la question que vous me posiez hier, peut-être que finalement, c'est ça qui m'intéressait dans le cerveau. C'est peut-être, en fait, les maladies de l'esprit. Alors, certains diront, oui, tous les psychiatres sont fous. Alors, peut-être que ceux qui s'intéressent à la psychiatrie sont peut-être un tout petit peu fêlés aussi, mais bon, c'est pas grave.
Et cette découverte-là, justement, au niveau des enjeux pharmacologiques, à quel niveau est-ce qu'elle s'insère?
C'est la fin de ma vie, ça, quasiment. Ou le futur, parce que je n'ai pas tout à fait décidé d'arrêter. Ouais, ça s'arrêtera bien tout seul, mais bon. Quelqu'un me dira que ça s'est arrêté. C'est peut-être plus probable que ça soit dans ce sens-là. Il se répète, le pauvre chéri. Vous voyez. Mais oui, à la fin, je me suis décidé, j'ai eu envie, si vous voulez, de voir comment on pouvait utiliser cette propriété particulière de ces facteurs de transcription de rentrer dans les cellules pour voir si on pouvait les utiliser comme des protéines thérapeutiques. Donc j'ai investi, j'ai créé une biotech. Pas uniquement un doux rêveur, hein. On peut pas croire. Donc j'ai créé une biotech, et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Bernard Gilly, qui est un type formidable, à la fois investisseur, mais en même temps un type qui aime la science. C'est très rare. Il l'aime, il la comprend. Et donc on est devenu assez proches. Et donc on a décidé de développer ces programmes en utilisant les homéoprotéines, ces facteurs de transcription, comme protéines thérapeutiques. Et la raison pour laquelle on a pensé ça, c'est que normalement, quand vous voulez exprimer une protéine thérapeutique, vous faites du génie génétique. Vous prenez un virus, vous mettez un gène, vous faites exprimer la protéine. Mais là, il se trouve que ces protéines sont des facteurs de transcription, c'est-à-dire qu'elles régulent l'expression des gènes, sont des facteurs qui régulent aussi la traduction des messagers, c'est-à-dire, vous savez, DNA, messager, protéine, mais ce sont aussi des protéines qui régulent ce qu'on appelle l'hétérochromatine, c'est-à-dire l'état épigénétique d'une cellule. Et donc, elles ont des actions à très long terme. C'est-à-dire que si vous l'introduisez, c'est pas difficile, hein, vous l'injectez, elle rentre, ça va dans la cellule. Dans une cellule qui est un peu malade, modèle murin de maladie de Parkinson, par exemple, eh bien, elle va rajeunir la cellule, et elle va la rajeunir pour assez longtemps. Or, il se trouve que ces maladies sont des maladies liées au vieillissement. Parce que même si vous avez la mutation qui va vous donner la maladie de Parkinson, il faudra attendre d'avoir 60 ans pour l'avoir. Donc, il faut quand même que la cellule ait vieilli. Donc, si vous arrivez à rajeunir votre cellule de quelques mois, de quelques années, j'en sais rien, vous donnez une nouvelle chance à votre système. Et donc, l'idée, c'était celle-là, de les utiliser dans ce domaine-là pour ça. L'idée de l'action épigénétique rajeunissante ou jouant sur l'âge du noyau pour une période relativement longue est à la base de la compagnie que nous avons montée, que nous avons appelée Brain Ever, hein, bien entendu.
L'éternelle jeunesse.
Éternelle jeunesse du cerveau. Oui, mais après, hélas, on ne peut pas se baigner dans les homéoprotéines.
Merci beaucoup, Alain Prochain. À demain.
À demain.
Et demain, la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Alain Prochian. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Yann Fressy, coordination Sandrine Trainer, attaché de production Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.